Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu, on va parler d'objets connectés avec Christophe Mallet et Reynald Gallis. Il y aura aussi le magazine des sports et puis comme tous les jeudis, nous allons aussi nous pencher sur les informations économiques de la semaine écoulée en Australie. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. Allons-y. Et les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 14 janvier. Le virus recule en Australie, aucun nouveau cas de transmission locale du Covid-19 n'a été détecté dans le Victoria et pas non plus en Nouvelle-Galles du Sud. Aux États-Unis, le Congrès vote la mise en accusation de Donald Trump, même les élus républicains demandent le départ immédiat du président sortant. Et en France, on a appris il y a quelques heures le décès d'une femme politique, la députée Marielle de Sarnez. Passer sa quarantaine dans une mine désaffectée, c'est l'idée défendue par le gouvernement du Queensland après l'apparition la semaine dernière à Brisbane du variant anglais du Covid-19 dans la population locale. Ce variant du Covid-19, il avait été transmis par un voyageur en quarantaine dans un hôtel du centre-ville à l'un des employés de cet hôtel. Et c'est pour cette raison que le gouvernement du Queensland considère que ces hôtels qui sont utilisés comme lieu de quarantaine et qui souvent se trouvent en plein centre de grandes villes, eh bien c'est un risque de propagation trop important et qu'on pourrait réduire si ces personnes placées en quarantaine étaient à la place envoyées dans des lieux isolés, très isolés même. C'est en tout cas l'idée que défend la chef du gouvernement du Queensland, Anastasia Palaszczuk.
I think with this new strain, we have to put all options on the table. And these are sensible, rational options. The Howard Springs works very well in the Northern Territory, and there's no reason why we couldn't do something similar here in Queensland, or if not, around the country. If we are dealing with a strain which is up to 70% more infectious, I think we need to be really serious about it.
Alors, sérieux, en tout cas, Brad Hazard, le ministre de la Santé, lui, de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, ne trouve pas que cette proposition le soit vraiment. Pour lui, il est essentiel que les personnes en quarantaine, qui sont potentiellement porteuses du virus et qui peuvent donc tomber malades, il est essentiel pour lui que ces personnes restent à proximité immédiate de bonnes infrastructures hospitalières.
But we simply do not believe that there would be any advantage, in fact, distinct disadvantages for us to be considering moving our public health hotels out of the Sydney regional area. If we do get people who deteriorate, we want them to be able to be transferred to a major tertiary hospital as quickly as possible. In other words, one that has the preeminent specialists available to look after people who may end up with COVID.
Bon, si ce n'est ces derniers rebondissements avant tout de nature politique, les choses vont plutôt bien et vont en tout cas mieux en Australie sur le front du Covid-19. La Nouvelle-Galles du Sud n'a signalé aucun nouveau cas transmis localement aujourd'hui et aucun nouveau cas non plus dans l'état du Victoria qui en est à son 8e jour d'affilée sans aucun nouveau cas. Et ces bons résultats, eh bien, ils déclenchent la réouverture de la frontière de l'Australie méridionale. En tout cas, elle rouvre pour les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud rurale. Depuis ce matin, ils peuvent à nouveau se rendre dans cet état voisin. En revanche, ils restent soumis à des conditions un un peu particulière. Ceux qui décident de passer la frontière d'Australie-Méridionale depuis la Nouvelle-Galles du Sud vont devoir subir 3 tests de dépistage du coronavirus au cours des 12 jours qui suivent leur arrivée en Australie-Méridionale. En revanche, pour les habitants du Grand Sydney, il va falloir attendre encore un petit peu pour l'instant. Pour aller à Adélaïde ou ailleurs dans cet état, la quarantaine reste obligatoire. Et puis pour finir ce chapitre australien, le chiffre du jour, 200 milliards de dollars, c'est la somme que les Australiens auraient mis de côté depuis le début de la pandémie, un niveau d'épargne qu'on n'avait pas vu en Australie depuis quasiment 30 ans. Et cet argent mis de côté, eh bien, il tombe plutôt bien pour le ministre de l'économie, Josh Frydenberg, sur 9 News. Il a estimé que c'est grâce à ces sous mis de côté que les Australiens ne subiront pas trop la suppression à la fin du mois de mars de JobKeeper.
And this money will help underpin our economic recovery and avoid a fiscal cliff as some of those temporary emergency economic support measures taper off.
Aux États-Unis, la procédure de destitution qui vise Donald Trump et qui a été ouverte au Capitole par les élus démocrates vient de franchir une première étape importante. La mise en accusation formelle du président a été déposée et c'est une surprise, elle a été votée aussi par des élus républicains. On fait le point avec la correspondante de Radio France Internationale à Washington, Anne Corpé.
C'est une mise en accusation bipartisane. 10 élus républicains ont voté en sa faveur. Il n'y en avait eu aucun l'année dernière lors de la première procédure en destitution intentée contre Donald Trump. Et jamais autant d'élus du parti au pouvoir à la Maison-Blanche n'ont voté en faveur de la mise en accusation de leur président. L'intrusion violente des partisans du président au Capitole, son discours juste avant le saccage du Congrès, son refus constant d'accepter le verdict des urnes ont convaincu ces républicains de contribuer à l'entrée de Donald Trump dans l'histoire par une porte peu glorieuse. La prochaine étape, vous l'avez dit, aura lieu au Sénat. Mitch McConnell, qui dirige actuellement la majorité à la Chambre haute, vient de faire savoir qu'il n'organisera pas le procès du président avant la prochaine session régulière. Elle est prévue le 19 janvier, à la veille de l'investiture. C'est donc sous la présidence Biden et avec le démocrate Chuck Schumer à la tête de la nouvelle majorité au Sénat qu'aura lieu le procès du président. Son issue reste incertaine. Pour que Donald Trump soit reconnu coupable, il faudra les voix de 17 sénateurs républicains.
Et pendant ce temps-là, la capitale américaine dans son ensemble reste sous tension. 15 000 soldats de la garde nationale sont déployés depuis la semaine dernière autour et à l'intérieur du Capitole. La représentante démocrate Alexandra Ocasio-Cortez était dans le bâtiment quand il a été envahi la semaine dernière par des partisans du président sortant. Une attaque au cours de laquelle la jeune députée a cru qu'elle allait mourir.
I had a pretty traumatizing event happen to me. I can tell you that I had a very close encounter where I thought I was going to die.
En Grande-Bretagne, des centres de vaccination ouverts 24 heures sur 24 vont bientôt voir le jour. Le pays qui peine à endiguer un nouveau variant plus contagieux du coronavirus compte vacciner en premier les membres des groupes les plus vulnérables au sein de la population. D'abord les personnes âgées de plus de 80 ans, mais aussi le personnel soignant. Le lancement de ce nouveau dispositif est prévu pour le 15 février, mais à en croire le Premier ministre Boris Johnson, on commence déjà à ressentir les effets de la campagne de vaccination. Le Royaume-Uni est en effet le premier pays dans le monde à avoir autorisé la mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid-19.
My gratitude to all those involved because they've now vaccinated 2.4 million people. We are now seeing the beginnings of some signs that is starting to have an effect in many parts of the country, but by no means everywhere.
En Italie, c'est un procès hors norme qui vient de commencer dans le sud du pays. Plus de 900 personnes vont être appelées à témoigner dans cette affaire qui mêle à la fois corruption, rackets ou encore assassinat. Sur le banc des accusés, c'est la 'Ndrangheta, la plus puissante des organisations mafieuses italiennes. Et en face, il y a un homme, le procureur Nicola Gratteri. Il a grandi dans la même région que la plupart des membres de cette mafia calabraise. Depuis Rome, Anne Lenir nous en dresse le portrait.
Cet homme, c'est Nicolas Gratteri, procureur en chef du parquet de Catanzaro depuis 2016, après avoir dirigé celui de Reggio de Calabre. Âgé de 62 ans, il vit sous escorte policière depuis 1989, époque où il a entamé sa lutte contre la 'Ndrangheta, une organisation criminelle désormais présente dans le monde entier qu'il connaît depuis son enfance, car il est né à Gerace, un village de la Locride où les premiers clans que l'on appelle les 'Ndrines se sont constitués. Il rappelle souvent qu'il fréquentait la même école que les fils des boss locaux et que son vécu l'a marqué au point de décider très tôt d'embrasser la carrière de magistrat. Mais ce père de deux enfants médecins qui ont dû fuir la Calabre aime aussi rappeler ses racines rurales. Il se décrit avec humour comme un agriculteur infiltré dans la magistrature. Il espère que le maxi-procès contre la 'Ndrangheta qui vient de s'ouvrir permettra au moins de poser un jalon dans l'édification d'un mur contre toutes les mafias. Anne Lenir, Rome, RFI.
Un procès hors norme donc qui vient bientôt démarrer et qui est également inédit par le fait du nombre très important de mafieux repentis, d'anciens membres haut placés de la 'Ndrangheta qui vont témoigner contre leurs anciens frères d'armes. Contrairement aux autres mafias, la loi du silence était jusqu'à présent toujours rigoureusement respectée par les membres de la 'Ndrangheta. C'est l'éclairage de Federico Varese, il est professeur à l'université d'Oxford.
Et il fatto che vi siano 58 pentiti. 58 pentiti.
Oui, il y a 58 repentis qui vont participer à ce procès. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi eux, on compte le fils du chef des Mancuso, qui va témoigner contre sa propre famille. C'est plutôt un fait nouveau au sein de la 'Ndrangheta. Ça se voyait plutôt en Sicile, où les membres de la mafia ne sont pas recrutés en fonction des liens du sang. Jusqu'ici, c'était très rare en Calabre, parce qu'en Calabre, quand tu es mafieux, dénoncer tes collaborateurs, ça signifie dénoncer ton père, ta mère, ta sœur ou tes fils, c'est autrement plus difficile. La nouveauté, c'est que ce processus commence à porter ses fruits en Calabre et je crois qu'il faut le porter au crédit du procureur qui n'a jamais rien lâché. Les mafieux ont quasiment la certitude de passer plusieurs dizaines d'années en prison et cette perspective a dû en décider quelques-uns. Mais si vous prenez le fils Mancuso, il a dit qu'il le faisait aussi pour sa fille, pour ne pas qu'elle grandisse dans cet environnement. Donc il y a des motivations éthiques, mais ce qui prime, c'est surtout la peur de passer sa vie derrière les barreaux.
Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine en Russie, il a survécu à un empoisonnement qui s'est déroulé au cours du mois d'août et dont on soupçonne les services russes d'en être les commanditaires. Eh bien, Alexei Navalny, malgré ses difficultés, a annoncé son intention de retourner à Moscou dès dimanche. Le Kremlin et Vladimir Poutine, de leur côté, font eux tout leur possible pour empêcher son retour. On va retrouver Anastasia Becchio de Radio France Internationale pour nous donner quelques explications.
Dimanche 17 janvier, je rentre à Moscou. Venez m'accueillir. C'est par ces mots qu'Alexei Navalny termine sa courte vidéo postée sur Instagram. Elle accompagne un message écrit dans lequel il explique les raisons de son retour. La question « revenir ou pas » ne s'est jamais posée pour moi. Simplement parce que je ne suis pas partie. J'ai été transportée en Allemagne dans une boîte de réanimation. L'opposant, qui a été empoisonné par un agent neurotoxique selon les conclusions de trois laboratoires européens et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, estime que le pouvoir russe fait tout pour l'empêcher de revenir en Russie. « J'ai survécu et maintenant Vladimir Poutine, qui a ordonné mon assassinat, dit à ses serviteurs de tout faire pour que je ne rentre pas. » À la fin du mois dernier, une enquête pour fraude à grande échelle a été ouverte contre lui. Selon le comité d'enquête russe, Alexei Navalny est soupçonné d'avoir dépensé pour son usage personnel pour près de 4 millions d'euros de dons. Cette semaine, la justice a enregistré une plainte demandant la conversion d'une peine de prison avec sursis datant de 2014 en prison ferme. Elle sera examinée le 29 janvier.
En France, le gouvernement envisage de mettre en place de nouvelles mesures de restriction pour freiner la pandémie de coronavirus. Actuellement, une partie du pays est placée sous couvre-feu dès 18h. Ce pourrait être le cas de tout le pays, en tout cas le temps du week-end, pour réduire encore les contacts au sein de la population et donc les risques de propagation du virus. Le gouvernement, qui réfléchit à plusieurs options, va faire une annonce demain. En attendant, on va écouter Olivier Sherman nous exposer les différentes pistes envisagées.
Il y a aujourd'hui 25 départements sous couvre-feu en France de 18h à 6h du matin. 25 départements de l'Est du pays, et cette mesure, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, permet une circulation moins importante du virus. Jean Castex ajoute même que les chiffres actuels nous laissent à penser que le couvre-feu suffit. Mais il faut faire vite pour éviter une accélération de l'épidémie en France. Ce couvre-feu à 18h pourrait donc s'étendre à d'autres départements qui, eux, sont sous couvre-feu à partir de 20h. Il pourrait même être national. Autre possibilité, un couvre-feu généralisé à 18h avec un reconfinement total uniquement les week-ends, le but étant de limiter totalement les déplacements et d'éviter que certains Français profitent de ces deux jours de repos pour se déplacer ou voir de la famille. La piste d'un troisième confinement semble pour l'heure écartée. Cette option est considérée comme le dernier recours pour l'exécutif, mais pour de nombreux scientifiques, cette solution est inéluctable.
Une figure de la politique française a disparu hier. La députée Marielle de Sarnez est décédée à l'âge de 69 ans. Elle a été ministre, elle a également cofondé le parti Modem avec François Bayrou. François Bayrou qui est l'un de ses plus proches amis. Anne Souhaitemont nous dresse son portrait.
C'est son ami de toujours, celui dont elle était la boussole et le bras droit, François Bayrou, qui l'a annoncé. Marielle, si talentueuse et si courageuse, vient de partir. Notre chagrin est immense. Entrée en politique dans les années 70 pour soutenir la candidature à la présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, Marielle de Sarnez remporte sa première victoire électorale au niveau européen en 99. Elle est élue eurodéputée et le sera d'ailleurs de nouveau 5 ans plus tard. Dans la foulée de la troisième place de François Bayrou à la présidentielle de 2007, elle cofonde avec lui Modem. Son rôle dans la définition d'un parti centriste affranchi du clivage classique droite-gauche est présenté alors comme déterminant. L'Europe a un ADN pour cette femme au style décontracté mais toujours chic. Elle sera nommée ministre des Affaires européennes par Emmanuel Macron en 2017, une consécration, mais elle devra lâcher ce portefeuille quelques semaines plus tard, mise en cause dans une enquête sur des soupçons d'emploi fictif d'euro-assistant. Elle sera ensuite mise en examen. Aujourd'hui députée, Marielle de Sarnez présidait la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nombre de parlementaires lui rendent ce soir hommage, et ce bien au-delà de son parti. Exemple avec Jean-Luc Mélenchon qui évoque ce soir sur Twitter une adversaire exemplaire de loyauté, de respect des autres et de créativité.
Un mot sur le tennis et plus précisément sur l'Open d'Australie. C'est aujourd'hui qu'arrivent les premiers joueurs et entraîneurs pour le Grand Chelem de Melbourne. Au total, 1200 personnes vont arriver de l'étranger à bord de 15 vols privés et dont le premier donc va atterrir en fin de journée à Melbourne un peu plus tard aujourd'hui. Alors tous ces joueurs, ils vont devoir, comme toutes les autres personnes qui arrivent en Australie depuis un autre pays, se soumettre à une quarantaine avant de pouvoir vraiment poser leurs valises. Ils vont être très encadrés, testés tous les jours au cours de leur arrivée en Australie. Et on rappelle donc que l'Open d'Australie, l'Open de Melbourne, sa date d'ouverture a été décalée. Cette année, ce sera prévu pour le 8 février. Et puis pour finir maintenant, on jette un œil à la météo du jour en Australie. Grand soleil à Perth où il va faire jusqu'à 35 degrés aujourd'hui, 25 degrés à Adélaïde où le ciel est partiellement voilé, grisaille également sur Melbourne avec 23 degrés attendus, jusqu'à 30 degrés à Sydney aujourd'hui où il fait également très beau malgré un petit risque d'orage. À Brisbane, le ciel devrait rester tout bleu aussi avec 31 degrés et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot. Paris gagne le trophée des champions hier contre Marseille, 2-1. Écoutez les ténors de Radio Foot International sur RFI commenter la fin du match.
Le PSG, sans être extraordinaire dans le jeu, a des joueurs qui lui permettent de faire la différence. Et puis Kiloem, sans être largué, n'a finalement pas les armes de ses ambitions. Il marque un but en toute fin de match. Bravo à l'OM, bravo à Payet, mais ce qui sur sa copie d'ensemble n'est pas bon, fait pas un bon match. Il fait meilleur quand il arrive sur le côté gauche, mais globalement il sauve son match avec son but. Voilà, tout ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est que si l'OM veut progresser sur un avenir proche, il doit avoir des joueurs capables de faire la différence quand le collectif n'y arrive pas. Alors que le PSG, qui a des individualités de très haut niveau à toutes les lignes.
Du côté de l'Olympique de Marseille, juste un mot, la perte de Steve Mandanda ce soir et pas de titre. Pas de titre, ils courent toujours après les Olympiens.
Oui, pas de titre. Le dernier, c'est en
2012.
C'est en 2012, Coupe de la Ligue. Et puis il y avait eu effectivement les belles années Deschamps auparavant, deux trophées des champions, mais surtout le championnat remporté en 2010, le quart de finale de Ligue des Champions. C'est la dernière grande époque, on va dire, olympienne. Mais ils ont joué leur match et finalement on préfère ce match trophée des champions que celui de septembre dernier, même si l'OM avait mis fin à 9 ans sans victoire face au Paris Saint-Germain. Et vous savez,
oui,
parfois
on aime bien les équipes combatives mais pas la guerre, quoi, hein, c'est ça.
Non, mais parfois ces matchs-là, on aurait pu aussi avoir un 0-0 sans véritables occasions de but. Il fait froid, c'est le mois de janvier. Hein, les stars sont là, c'est Di Maria et son pied gauche magique qui a donné le premier but pour la tête d'Icardi avec cette superbe ouverture de 30 mètres. Kylian Mbappé, on l'a un peu moins vu en seconde période, mais il a fait une très bonne première mi-temps. On a vu que Thauvin, il avait vraiment quelque chose et que lui aussi, il montait en puissance. Florian Thauvin, ne l'oublions pas, pendant un an, il a été absent des terrains, à soigner sa cheville. C'est lui qui sur 80 mètres a failli égaliser. Finalement il donne le ballon de but à Dimitri Payet. Donc oui, on a vu quand même du bon football pour un match du mois de janvier.
La Française Clarisse Abeg-Nenou, numéro 1 mondial des moins de 63 kilos, s'est imposée en finale de judo contre la Japonaise Nabekura au Masters de Doha. Clarisse Abeg-Nenou est sur European Broadcasting Union.
I'm feeling good, I'm happy. It was not like easy to come like this at the competition. Of course, everybody is waiting for me, but I'm also waiting to have another medal.
How did you approach this fight, and how does it feel to have the Masters title back in the cupboard?
I knew that it's going to be like an hard fight because she's really a good fighter, and Japanese is always hard to fight. And I was in my head like, okay, you have to get your self-control and wait until the end. So the end, when is it? You never know. So just keep it up, and just go. I don't know what I'm doing. It's just like inside me, and if I feel someone really close, then Renage is nice to do. But at the end, I changed the technique, so I'm happy about that.
Le Dakar, et n'oubliez pas d'abord, les meilleurs moments du rallye, c'est sur la télévision SBS tous les jours à 17h30. Et hier, Stéphane Peter-Ancel était en tête. Pour rappel, l'Australien Toby Price a dû abandonner après une chute spectaculaire mardi. Formule 1, le Grand Prix d'Australie reporté au 21 novembre prochain, et c'est à Bahreïn que se lancera l'édition 2021 du championnat du monde. Tennis, 15 vols charter vont atterrir à Melbourne à partir de ce jeudi avec 1200 joueurs, membres du personnel et officiels de tennis avant l'Open d'Australie. Trois hôtels font partie du programme de quarantaine pour ces joueurs et leur entourage pour protéger l'état du Victoria de toute nouvelle épidémie de coronavirus en provenance de l'étranger. La ministre de la police du Victoria, Lisa Neville, a déclaré que le programme était basé sur l'hypothèse que les arrivées internationale pourrait potentiellement être testée positive au COVID-19.
We have put in place the strongest, the strictest rules that apply for tennis across the world. But this is the strictest program in the world in terms of hotel quarantine for our tennis players.
Et puis, sachez que l'Australien Alex de Minaur a remporté la finale d'Antalya, c'est en Turquie, contre Alexander Bublik, le Kazakh, qui a abandonné. Il était mené 2-0 dans le premier set. Arina Sabalenka, la Biélorusse, a remporté la finale d'Abu Dhabi et la Russe contre la Russe Veronika Kudermetova, 6-2, 6-2. Le Vendée Globe, Charlie Dalin, au dernier pointage, était en tête. Lui et Yannick Bestaven ne font que changer la position de leader depuis lundi dernier. On revient au foot à nouveau. En Angleterre, il y avait un match de la 16e journée. Tottenham et Fulham ont fait match nul, un but partout. Et deux matchs de la 18e journée. Manchester City a battu Brighton 1-0. Puis mardi, il y avait un match de la première journée, oui, un match en retard, Manchester United qui s'est imposé contre Burnley 1-0. En Espagne, demi-finale de la Supercoupe hier entre la Real Sociedad et le FC Barcelone et le Barça gagne au tir au but 3-2 après un match nul, un but partout en temps réglementaire. Le Barça en finale, il jouera soit contre le Real Madrid ou l'Atlético Bilbao. Ces deux équipes joueront ce soir la demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne. La Coupe d'Italie, 8e de finale, l'Inter Milan a battu Fiorentina 2-1. Naples s'est imposé contre Empoli 3-2. En Allemagne, la Coupe, deuxième tour mardi soir avec le Bayer Leverkusen qui a battu Eintracht Francfort 4-1. En Afrique, le CHAN 2021 s'ouvre le 16 janvier prochain avec le match entre le Cameroun et le Zimbabwe. Et puis le handball est de retour en Afrique avec le mondial en Égypte à huis clos. Précision de Christophe Diremzian pour Radio France Internationale.
Il y a quelques semaines encore, un mondial en pleine pandémie n'allait pas de soi et l'Égypte, désignée pays hôte dès novembre 2015, a dû faire face à un défi logistique inattendu. Mais renoncer aurait été vécu comme un affront par les autorités politiques et sportives. Le Premier ministre chapeaute en effet directement le comité d'organisation et la Fédération internationale est tenue depuis plus de 20 ans par l'Égyptien Hassan Mustafa, dont l'une des quatre salles de la compétition a été baptisée à son nom. Malgré la bulle sanitaire très stricte mise en place, le tout-puissant patron de l'IHF aurait bien aimé voir 20% de chaque enceinte avec du public, mais il a dû faire machine arrière au dernier moment devant la fronde menée par l'association des joueurs européens, inquiet des risques de contamination. C'est donc dans des enceintes vides que s'ouvre cette 27e édition avec un casting élargi pour le plus grand bonheur de l'Afrique et de ses désormais 7 représentants. Les pharaons vainqueurs de la CAN 2020 et 8e des derniers championnats du monde restent la figure de proue du continent. Ils viseront les quarts de finale avec leur génération championne du monde 2019 des moins de 21 ans, Tunisie, Algérie, Maroc de retour après 14 ans d'absence, Angola et les deux novices, Cap-Vert et RDC, tâcheront eux simplement de se faire une place au deuxième tour.
Et en match d'ouverture, l'Égypte a battu le Chili 35-29. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
D'écouter le morceau Gnawa du groupe Polo Corp. Vous êtes sur SBS, le programme en français, et il est très exactement 13h31. C'est maintenant le moment de faire le point sur l'actualité économique en Australie. Pour cela, on retrouve tout de suite Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich.
Thank you. bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpic pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Les syndicats continuent à poursuivre Qantas en justice.
Voilà, Qantas, la ligne aérienne australienne, The Flying Kangaroo, en pleine dispute avec plusieurs syndicats là. Et en fait, ça dure depuis des mois maintenant. Essentiellement, les syndicats disent qu'ils n'ont pas correctement payé les employés, en particulier pendant cette crise, cette pandémique. Et ils ont déjà essayé de poursuivre Qantas en justice dans la Federal Court. Ils avaient gagné là, mais après la full bench du Federal Court a trouvé du côté de Qantas. Alors, ce qui se passe là, c'est que les syndicats cherchent à amener Qantas en justice dans le High Court, ce qui n'est pas tout à fait facile, mais c'est le dernier tribunal où ils peuvent essayer. Et ils disent qu'en fait, Qantas n'a pas correctement payé les employés qui travaillent les jours fériés ou les week-ends ou le overtime et qu'ils ont manipulé les rosters pour que en fait les employés sont payés seulement le job keeper qui était au début $1,500 toutes les deux semaines et pas plus, même s'ils travaillaient des heures en plus ou les week-ends etc. Donc voilà, il y a plusieurs syndicats. Il y a le Transport Workers Union, Australian Services Union, Flight Attendants Association of Australia, the Australian Council of Trade Unions. Donc c'est assez important, c'est un gros truc. Et Qantas dit par contre que ça vaut pas la peine du tout, que ça gâche non seulement le temps, mais l'argent, qui gâche l'argent des membres des syndicats, et ça n'aide pas en plein milieu de cette crise. Ils disent que le full bench of the Federal Court avait trouvé que Qantas payer JobKeeper comme il fallait, correctement, et qu'ils n'avaient rien manipulé, ils avaient toujours payé les gens en plus quand ils travaillaient les week-ends, etc. Mais évidemment, là, les syndicats ne sont pas d'accord, donc voilà, qu'ils poursuivent ça vers le High Court. Mais bon, c'est compliqué, c'est un moment délicat, bien sûr, Qantas, qui a dû virer beaucoup, beaucoup de gens, parce que à cause de la crise, il y a beaucoup moins de vols, évidemment, presque plus d'avions qui viennent en Australie de l'international. Et en même temps, quand ça, c'est l'administration de Alan Joyce, le PDG, en pleine dispute avec ses membres, avec les syndicats. Donc, c'est pas un bon moment pour avoir une dispute comme ça quand déjà la situation financière est tellement fragile.
Et puis, il y a des problèmes pour le plus grand port d'exportation dans le pays.
Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est le port de Port Hedland. C'était un port tout au nord de l'Australie occidentale, à 1650 km au nord de Perth, en fait. Et c'est le plus grand port d'exportation au monde, en fait. Il y a 46,5 millions de tonnes de minerais de fer qui sont exportées de ce port seulement en décembre. Et là, il y a un problème qui dure depuis en fait très longtemps. C'est que le minerai de fer, ça vient des mines dans des très très longs trains, et en fait, ça a créé beaucoup beaucoup de poussière. Et cette poussière, depuis très longtemps, elle couvre toute la ville de Port Hedland. Donc il y a un problème là, une question de santé. Le gouvernement d'Australie occidentale veut racheter à peu près 400 maisons qui sont dans la direction d'où pousse le vent, pousse la poussière, en direction de à peu près 400 maisons. Et le gouvernement veut racheter ces maisons, ça va coûter $200 millions. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est à partir du 1er mars, le Pilbara Ports Authority va faire payer $13,000, plus que $13,000, à chaque bateau qui arrivent dans le port. Donc, c'est des bateaux d'exportation, des énormes bateaux qui viennent de la Chine, du Japon, de la Corée, etc., pour exporter le minerai de fer. Donc, c'est comme ça qu'ils vont essayer de trouver les 200 millions de dollars. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est que le PDG de Shipping Australia, qui s'appelle Melwyn Norona, dit que c'est vraiment pas juste, que c'est trop facile pour le gouvernement et le Pilbara the Ports Authority de faire ça. Ils disent que bon, les bateaux comme ça, c'est une cible facile à leur faire payer 13 000 dollars chaque fois, mais c'est pas juste parce que c'est pas eux qui ont créé ce problème. C'est un problème qui dure depuis très très longtemps et c'est un problème vraiment créé, ils disent, par ils disent pas ça exactement, mais c'est les compagnies principales sont BHP, Rio Tinto et plus récemment Fortescue Metals Group, et eux déjà ils vont contribuer de l'argent, mais Shipping Australia dit que c'est vraiment pas leur problème et que c'est pas à eux de résoudre ce problème qui est là depuis très très longtemps. Et en fait c'est vrai aussi que le gouvernement là est en train de réexaminer le permis pour les grandes compagnies minières de continuer à miner. C'est pas comme s'ils allaient interdire ça du tout parce qu'ils en ont trop besoin. L'économie australienne dépend tellement de ça, mais peut-être qu'ils vont y aura une revue de comment les opérations sont menées, si on peut avoir beaucoup moins de poussière, bien sûr. Et déjà, il y a eu à peu près 130 personnes qui ont dit qu'ils sont intéressés, ils aimeraient bien revendre leur maison, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui veulent continuer. Pas tout le monde pense que c'est un énorme problème et ils aiment bien habiter là. Mais bon, un problème assez compliqué dans un port qui est clé pour l'économie australienne, en fait.
Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et on vient d'écouter Michel Jonas sur ce morceau qui s'intitule « Baby, c'est la crise ». Allez, maintenant, on va s'intéresser à notre futur, un futur qui est d'ores et déjà de plus en plus présent dans notre quotidien. Il s'agit des objets connectés. Vous les connaissez sûrement déjà. Je suis sûr que vous en avez au moins un dans votre maison. Mais ceux que vous connaissez sûrement moins, ce sont les objets connectés qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise. C'est une véritable révolution qui est en cours. On va en parler avec Christophe Mallet et Reynald Gallis.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Et aujourd'hui, on va parler technologie dans le programme en français sur Radio SBS avec Reynald Gallis. Bonjour Reynald.
Bonjour.
Alors vous êtes, on va dire, un spécialiste un peu de plein de choses et notamment d'objets connectés. Et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Il y a une conférence, on va découvrir un peu tout ça. Expliquez-nous déjà cette révolution des objets connectés, question très large, mais c'est un vrai fait du moment ça, les objets connectés.
Ouais, alors pour moi, il y a deux types d'objets connectés. Hein. Les premiers objets connectés...
qu'on connaît bien, c'est tout ce qui est Fitbit, l'Apple Watch, donc ce qu'on appelle plutôt des consumers objets connectés. Donc, là où ça devient plus intéressant, c'est dans l'aspect industriel des objets connectés, où effectivement ça va changer complètement la manière dont les entreprises vont travailler. Ça va complètement perturber les entreprises, parce qu'elles vont maintenant connecter des choses qui leur permettent de réduire leurs coûts ou d'avoir des manières de travailler ou fournir de nouveaux services aux clients qui sont vraiment innovatrices. Donc c'est cette partie-là moi qui m'intéresse plutôt que le côté gadget des côtés consommateurs.
D'accord, alors ça c'est super intéressant en fait, parce que c'est vrai que bon, si on parle du côté consommateur, il y a encore 5 ans, avoir une montre connectée, c'était ça relevait de la James Bond. Aujourd'hui, il y en a à peu près dans toutes les rues, il y a des gens à côté de nous partout qui ont des montres connectées, mais on se rend pas bien compte justement dans tout ce qui est corporate, dans tout ce qui est business, à quel point ça change les choses, à quel point ça change la donne. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des choses telles le NBN, des réseaux hyper performants derrière pour soutenir ça.
En fait, c'est tout l'opposé, les objets connectés. C'est être capable de connecter n'importe quoi de manière extrêmement simple à des coûts extrêmement faibles. Et justement, il n'y a pas besoin de réseau NBN. NBN, ça va être super pour connecter son téléphone, transférer de la vidéo, de la photo. L'objet connecté, justement, le principe de l'objet connecté, c'est que ça soit un produit qui soit extrêmement simple, de très faible coût, de l'ordre de 10-20 $, qui aura des fonctions extrêmement simplifiées. Par exemple, vous donnez l'information, quelle est la température, qu'une porte soit ouverte ou fermée, simplement vous donnez une géolocation d'un élément d'une entreprise. Et pour ça, il n'y a pas besoin de transférer beaucoup d'informations. Et justement, on utilise des nouveaux réseaux pour ça, qui est entre autres, nous on utilise la technologie Sigfox, qui est une technologie française, et qui permet d'envoyer seulement 12 bytes. Et 12 bytes, c'est presque rien.
J'aurais cru que sur le volume d'objets connectés, on aurait quand même une obligation d'avoir un réseau conséquent derrière.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie on a des millions d'objets qui sont connectés, mais chaque objet envoie seulement 12 bytes. Et l'intérêt de ça, c'est que il n'y a pas besoin en fait d'avoir des réseaux qui envoient beaucoup de data au bout du compte, parce que même 12 bytes multipliés par 1 million, ça reste des volumes extrêmement faibles, de l'ordre d'une vidéo.
D'accord.
Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme on n'envoie pas beaucoup d'informations, ces objets connectés vont avoir des batteries qui peuvent durer jusqu'à 10-20 ans.
D'accord.
Donc, imaginez par exemple un compteur d'eau qui va être connecté automatiquement sur le réseau Sigfox et qui va avoir une durée de vie de 15 ans et qui va vous envoyer une information tous les jours pour vous dire la consommation d'eau, elle est de temps. Et justement, à partir de cette information qui est vraiment toute simple, être capable de déterminer au quotidien, de dire attention, là il y a une fuite d'eau parce que la consommation l'a doublé ou triplé aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un tous les 3 mois qui va vérifier votre compteur et va vous envoyer une facture. Et un mois plus tard, vous allez recevoir votre facture et vous allez vous rendre compte que votre consommation elle a triplé et vous savez pas pourquoi.
Et on vous dit que c'est de votre faute et voilà.
Voilà, on vous dit que c'est votre faute ou alors on va aller vérifier et ce sera passé 6 mois. Et pendant 6 mois, il y aura une énorme fuite d'eau. Maintenant, au quotidien, on est capable de dire avec des objets connectés et c'est tout l'intérêt. Envoyer des informations extrêmement simples. De manière relativement faible, c'est-à-dire une fois par jour ou deux, trois fois par jour, mais qui va vous donner une information extrêmement intéressante et un très très faible coût.
D'accord. Donc, quand on parle de réseau comme ça, est-ce que l'Australie n'aurait pas un problème à propos des distances? Elle est connectée à un compteur d'eau qui est au fin fond du bush ou est-ce que justement ces réseaux, les nouveaux réseaux peuvent aussi pallier à la distance aussi, la différence entre les certains points?
Ouais, bah, la beauté de ces nouveaux réseaux, c'est qu'en fait, comme on envoie très très peu d'informations, ils ont des très longues distances. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir une borne qui se connecte, un objet qui se connecte dans le bush à 200 km de la borne. Alors que si c'est un téléphone, il faudrait être à 2-3 km maximum de la borne. Donc, du coup, on peut avoir, en déployant 1000 antennes en Australie, on peut couvrir 95% de la population. Alors que si c'était du 3G ou du NBN, il faudrait avoir 100 000 antennes pour couvrir l'équivalent.
Est-ce qu'on est à un moment charnière dans l'histoire justement des objets connectés?
Ah oui, carrément. Carrément, parce que ces réseaux-là, à très faible consommation, à très faible coût, n'existaient pas il y a 2 ans. Donc le fait qu'ils apparaissent maintenant, en Australie par exemple, on couvre maintenant 75% de la population, presque 90% de la population en Nouvelle-Zélande, et ça s'est fait en l'espace de 6 mois. Imaginez un réseau 3G, ça a dû prendre, pour faire l'équivalent, ça a dû prendre 4-5 ans.
Et on parle même pas du NBN. Hein.
On parle pas du NBN, on parle d'un objet qui est vraiment dédié aux objets, qui est donc là sur la technologie Sigfox, hein, qui permet justement d'avoir des objets qui vont coûter 10-20 $, hein, qui vont avoir des durées de vie de 3 à 15 ans, suivant l'utilisation, et qui vont avoir un coût en matière de connectivité de l'ordre de 1 à 2 $ par an. Donc imaginez par rapport à du 3G, la manière dont on se connecte à l'heure actuelle, au mieux vous payez 10 $ votre abonnement par mois et votre objet 3G va vous coûter 200 $. Donc des coûts extrêmement plus faibles, mais la grosse différence c'est sur la consommation énergétique. Parce que votre objet connecté en 3G, la batterie, il va falloir la recharger tous les 2-3 jours. Là, votre batterie, vous la rechargez qu'une fois tous les 10 ans. En fait, vous la rechargez même pas, vous changez l'objet.
Est-ce que à terme, ça veut dire que c'est des choses qui sont aujourd'hui dans le business et dans tout ce qu'on appelle un peu le corporate, etc. Est-ce que ce qui va filtrer dans l'objet de tout à chacun?
Nous, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est les marchés industriels, parce qu'il y a des vraies économies à faire, réduire la consommation énergétique, réduire tout ce qui est perte en matière de nourriture, en matière de consommation. On peut avoir des applications au niveau industriel maintenant qui sont extrêmement efficaces grâce à ces coûts extrêmement faibles. Maintenant, il y a des applications toutes bêtes dans le marché consommateur. Imaginez un tracker pour chien. Vous avez votre chien, vous avez un petit tracker de la taille d'un... Mais imaginez un petit tracker de la taille d'un rouge à lèvres que vous auriez à charger que tous les 3 ans, que vous attachez au collier de votre chien et que dès qu'il sort de la maison ou qu'il est en dehors de votre périmètre établi, il va vous envoyer une information pour vous dire attention, le chien a sorti son périmètre et voilà où il se trouve. Donc il y a des applications dans le domaine consommateur qui vont arriver et donc là c'est des produits qui vont être de l'ordre de moins de 100 $ et qui incluent 50 connectivités.
D'accord, alors si on veut en savoir plus, vous avez un site internet?
Notre propre site c'est thinxtra.com, thinxtra.com.
D'accord, on mettra tout ça sur notre site internet. Merci, c'était super intéressant de vous parler donc sur les choses et les appareils connectés. C'était Rénal Galis, merci.
Merci.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, réservez cette grâce.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec les Dutronc, père et fils, Jacques et Thomas, qui chantent ensemble sur ce morceau qui s'intitule « Le Petit Jardin ». Nous, on se retrouve samedi à 13h pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast, comme d'ailleurs l'ensemble de nos programmes. Vous les trouverez très facilement sur notre site SBS French ou, à vrai dire, sur toutes les applications de streaming audio. Il suffit pour cela de vous abonner à notre chaîne. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.
Avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour du jardin passe un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.